Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et donc Amandine, tous les jours, c'est l'info jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, dernier préparatif avant un procès historique, celui des attentats du 13 novembre. Il débute mercredi, dans deux jours. Le flop de la vaccination sans rendez-vous et puis la voiture la plus vendue en France existe désormais en électrique. Renault a présenté ce matin sa nouvelle Mégane.
Je l'ai dit tout à l'heure, après le journal, deux débats, le procès des attentats et Nice avec cette mère dealer expulsée de son logement.
Est-ce la solution? C'est justement notre question du jour sur RTL.fr et vous dites oui, massivement à 85%, non à 11%. La météo, c'est avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour, Amandine.
Et il fait chaud, enfin.
Ça vous plaît, ça.
On est tous sur le travail.
Donc mais ça fait du bien, Pascal. Non,
mais bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Mais je suis très content qu'il fasse très beau. J'aurais préféré qu'il fasse beau le 15 août, mais c'est déjà bien.
Il n'y a pas de jaloux. Ça sera pour tout le monde cet après-midi. Grand soleil. Je vois quelques nuages qui traînent sur le Languedoc-Roussillon. Mais ça devrait aller mieux cet après-midi. Il y a un peu d'orage en montagne. Puis les températures, 28 à 33 degrés, quelle que soit la région, jusqu'à 35 même parfois, autour de la vallée de la Garonne.
Et on ira à Carnac dans un instant. Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Mais d'abord, cette disparition. Il aura passé plus de 39 ans dans le coma, près d'un demi-siècle dans un état végétatif. On a appris tout à l'heure le décès de Jean-Pierre Adams, l'ancien défenseur international français. Bonjour Eric Silvestro.
Bonjour.
Tout était parti d'une opération ratée.
Oui, ce 17 mars 1982, Jean-Pierre Adams, 34 ans, doit subir une intervention bénigne au genou après la rupture d'un tendon. Juste avant de descendre au bloc, il plaisante même avec son épouse Bernadette en lui disant de ne pas oublier de venir le chercher avec une paire de béquilles. Mais une terrible erreur dans le dosage de l'anesthésie va priver son cerveau d'oxygène et le plonger dans le coma durant près de 40 ans donc. Sa femme a veillé sur lui chez eux à Nîmes et avait reçu Sophie Orange pour RTL il y a quelques années.
Il vieillit moins vite que moi. Pas de rides, presque pas de cheveux blancs. Mais j'ai l'impression que le temps s'est arrêté le jour de l'accident. Il est beau. Il est resté beau.
Né à Dakar en 1948, ce défenseur central aura fait les beaux jours de Nîmes, de Nice et du PSG notamment dans les années 70 et surtout porté le maillot de l'équipe de France à 22 reprises entre 1972 et 1976, formant aux côtés de Marius Trésor la fameuse Garde Noire, une amitié née en 71 que Trésor raconte dans son autobiographie Au-delà de mes rêves. Lors d'un match Ajaccio-Nîmes, Adams avait répondu à l'un de ses coéquipiers qui lui demandait de tacler Marius. Pas de ça entre nous, non, plutôt d'interminables parties de cartes et une élégance infinie sur les pelouses.
Merci beaucoup Eric Silvestro. Jean-Pierre Adams avait, on le rappelle, 73 ans.
Et c'est aussi une histoire d'amour bouleversante. On a entendu son épouse Bernadette qui a donc été à son chevet pendant 39 ans. Ce sera sans doute le temps fort de la semaine, l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre.
Ce sera mercredi à Paris, un procès hors norme compte tenu du nombre de parties civiles, 1800 on le rappelle, mais aussi par sa durée, 9 mois. Une salle d'audience a été tout spécialement aménagée dans l'enceinte de l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité à Paris. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, s'est d'ailleurs rendu sur place tout à l'heure.
Je vous propose, monsieur le ministre, d'aller visiter cette salle que vous n'allez pas reconnaître.
Oui, vous avez raison, ouais. Ça a beaucoup changé.
45 mètres de long, 550 personnes qui pourront s'asseoir.
C'est à la fois ultra moderne et c'est un lieu de justice.
Voilà. Enfin, oui.
J'ai absolument tenu à venir ici à deux jours de l'ouverture du grand procès dit du 13 novembre. Le plus long de notre histoire. Le monde entier va regarder ce procès et c'est aussi l'occasion pour notre justice de réaffirmer qu'elle fonctionne avec un certain nombre de règles intangibles qui distinguent la civilisation de la barbarie et il est important pour moi de le redire ici.
Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice au micro RTL, Dan Le Hénaff.
Et ce n'est pas rien ce que disait Éric Dupond-Moretti, c'est le procès le plus long de l'histoire en France. Alors pourquoi est-ce si long? Ce sera l'une des questions qu'on se posera tout à l'heure.
Le Covid à présent, c'était la vaccination sans rendez-vous ce week-end partout en France. Et le moins qu'on puisse dire, Odile Pouget, c'est que ça n'a pas été un grand succès.
Alors c'est vrai, bilan plutôt mitigé lorsqu'on examine les chiffres que l'on reçoit chaque jour de la DGS, la Direction Générale de la Santé. Chiffres en baisse donc samedi et dimanche par rapport au week-end précédent. Un peu plus de 106 000 premières injections réalisées samedi, c'est environ 1 200 de moins. Et 27 000 pour dimanche, c'est 5 800 de moins. moins que le dernier dimanche d'août. En dépit de cette opération lancée en milieu de semaine dernière par Olivier Véran, baptisée « À la rentrée, tous vaccinés », en dépit de la forte mobilisation des professionnels de santé dans tous les centres de vaccination, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'effet de boost. D'ailleurs, le rythme concernant les premières injections n'a jamais été aussi faible depuis 6 mois. On rappelle qu'en France, aujourd'hui, 72% de la population totale a reçu au moins une dose. Ça représente un peu plus de 49 millions de personnes. On devrait atteindre les fameux 50 millions d'ici le week-end prochain.
Normalement, on le rappelle, hein, l'objectif c'était au 31 août. Merci Odile. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Sachez par ailleurs qu'à partir de mercredi, seuls 64 centres commerciaux seront soumis au pass sanitaire. 64 contre 178 aujourd'hui. C'est la conséquence de la baisse du taux d'incidence. Il est repassé sous la barre des 200 pour 100 000 habitants dans les départements d'Île-de-France, sauf la Seine-Saint-Denis, ainsi que dans le sud-ouest de la France. En Afghanistan, les talibans assurent ce matin avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir, une zone ô combien symbolique, puisque c'est le fief du commandant Massoud. Marie Beyer, vous êtes sur place, à Kaboul, pour RTL. Cette zone était le dernier foyer d'opposition.
Aujourd'hui, de nombreux Afghans sont en deuil. Dans les intenses combats qui ont déchiré la vallée pendant la nuit, d'importantes figures du Front National de Résistance, le mouvement emmené par le fils du célèbre commandant Massoud, ont péri, y compris le porte-parole du mouvement, un journaliste très connu en Afghanistan. Ahmad Massoud, flanqué d'Amroullah Saleh, vice-président du gouvernement déchu, et quelques irréductibles, affirment encore tenir des points stratégiques dans cette vallée située dans le centre du pays. Mais les talibans ont déjà hissé leurs bannières noires et blanches devant ce qui était, hier encore, la résidence du gouverneur provincial. Leur victoire était annoncée. Deux nuits plus tôt, à Kaboul, des centaines de talibans avaient tiré des rafales d'armes automatiques dans les airs pendant près d'une heure pour célébrer, avec un peu d'avance, la prise du Panjshir. Les talibans ont promis aux habitants de la vallée qu'ils étaient à l'abri de toute représaille, mais dans de nombreuses provinces, d'anciens employés gouvernementaux ou des forces gouvernementales font état de menaces, de tortures et d'exactions.
Récit signé Marie Berrier, qui est à Kaboul, hein, en Afghanistan, sur place, pour RTL.
Et puis la charte des talibans qu'on découvre ce matin fait peur. Les étudiantes afghanes devront porter un voile intégral dans les classes non mixtes. Les universités devront recruter des enseignantes ou enseignants âgés pour les étudiantes et elles devront quitter la classe 5 minutes avant, de manière à ne pas croiser les hommes. C'est des informations qui ont été données par le ministère de l'enseignement supérieur afghan samedi.
On part à présent pour Munich. Coup d'envoi aujourd'hui du Salon de l'Auto et parmi les nouveautés présentée cette année, la Mégane électrique de Renault. Alors Christophe Bourreau, vous êtes sur place, à quoi elle ressemble ?
Alors d'abord, ce qui frappe, c'est sa compacité, 4,21 m de long. C'est 15 cm de moins que l'actuelle Mégane. Et bien malgré cela, elle est tout aussi logeable et peut accueillir jusqu'à 5 personnes. En fait, les batteries sont logées sous le plancher, ce qui permet de dégager de la place pour une voiture qui annonce une autonomie de 450 km. Intérieur chic pour cette Mégane i qui se veut aussi branchée avec un écran XL et une connexion avec Google, avec qui Renault s'est associé pour proposer une multitude d'applications, comme pour la musique ou trouver un restaurant, une borne de recharge. Pas encore de prix officiel, mais selon nos informations, elle devrait être proposée autour de 40 000 euros pour un lancement prévu en février prochain. À noter un tout petit détail, un coq qui apparaît sur le pare-brise pour cette Mégane, pour bien montrer qu'elle est fabriquée en France.
Et oui, car c'est à Douai qu'elle va être fabriquée, cette nouvelle Mégane. Renault, on le rappelle, avait annoncé il y a quelques mois 700 embauches pour tout le pôle électrique dans la région. Christophe Bourreau, qui était donc à Munich pour nous, pour ce salon. De l'auto, le foot à présent et les Bleus affrontent demain la Finlande. Pas le droit à l'erreur hein, s'ils veulent finir premier du groupe. Malgré tout, après les deux derniers matchs nuls, on s'interroge forcément. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Concrètement, que peut faire Didier Deschamps d'ailleurs ? A-t-il toujours vraiment la main ?
Oui, alors il faut se souvenir que la question s'est posée hein, au sortir de l'Euro. Et si Didier Deschamps et son staff ont été maintenus, c'est après consultation de nombreux acteurs, dont plusieurs joueurs. Noël Le Graët, le président de la Fédération, s'est ainsi entretenu avec des garçons de personnalités et de générations différentes, de son capitaine Hugo Lloris à Kylian Mbappé en passant par Paul Pogba. Tous, et sans ambiguïté, ont témoigné de leur confiance envers le sélectionneur et manifesté le souhait de continuer avec lui, mais peut-être aussi parce que baigner dans un certain confort, un peu nouveau, en redoublant d'efforts pour réintégrer Karim Benzema, Didier Deschamps a en effet lâché du lest, se montrant moins directif. En témoigne l'épisode des pénaltys et coups francs que tous les attaquants souhaitaient tirer sans que jamais le coach ne tranche. Aujourd'hui, en public comme en privé, les joueurs continuent de louer les qualités de leur sélectionneur, mais le rapport a manifestement changé. En 2018, Adil Rami craignait d'être viré en pleine Coupe du Monde après une bataille d'extincteurs. Aurait-il la même peur aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr.
Philippe Sansfourche du service des sports d'RTL France-Finlande, bien sûr. C'est donc demain, 20h45 à Lyon, et ce sera à suivre en direct sur RTL. Des nouvelles de Jane Birkin, qui ne sera pas cette année au Festival du film américain de Deauville. C'est ce qu'a annoncé son entourage. La chanteuse a en effet fait un léger AVC. Mais elle va bien et a besoin d'un repos total. C'est ce qu'a confié tout à l'heure à RTL son manager. À 74 ans, Jane Birkin a hâte, dit-il, de retrouver son public. Et puis, Louis nous le disait, c'est la bonne nouvelle du jour, ce grand beau temps partout. Il était temps, vous allez me dire, hein, nous sommes, je vous le rappelle, le 6 septembre. Enfin, bien c'est ce qu'on se disait ce matin du côté de Carnac, dans le Morbihan.
Je transpire déjà, moi. Je transpire beaucoup. Tout à l'heure, quand je suis sorti, il y avait 24 degrés à 10h du matin. C'est le lundi au soleil, voilà.
J'ai trempé les pieds. Elle n'était pas fraîche. Elle a l'air bonne.
Chapeau, lunettes, shorts. Et le temps, eh ben, super. On était parti en Dordogne et on a eu pluie.
C'est trop beau. Puis bon, il n'y a pas trop de monde, quoi, c'est ça.
Ce qui est malheureux, c'est qu'il fait un peu trop chaud. C'est parce qu'on était venu rechercher pour le petit, qui a 22 mois. On évite quand même de l'exposer au soleil. Donc on reviendra ce soir vers 18h.
C'est pas la réputation qu'a la Bretagne, c'est plutôt la pluie. Donc là, c'est vraiment un cadeau du ciel.
Carte postale signée Nicolas Bobby pour RTL depuis Carnac. Donc Louis, on les entendait certains se plaindre, 24 degrés à Carnac, ça va encore monter cet après-midi.
Oui, en plus ça va encore monter, hein, puisqu'en Bretagne on va atteindre les 30 degrés. Alors peut-être pas en bord de mer, il y a toujours l'effet mer qui limite un peu, mais on sera entre 27 et 28 degrés, 30 degrés qu'on atteindra quasiment partout sur la France. On ira même jusqu'à 33, 34 degrés du côté de la vallée de la Garonne.
30 degrés en Bretagne, jusqu'à 33, 34 dans certains endroits, c'est inhabituel en cette saison.
Voilà, c'est pas exceptionnel, on est encore en été jusqu'au 21 septembre, mais enfin, c'est vrai que c'est inhabituel, notamment dans les régions de l'Ouest et en particulier en Bretagne, même s'il ne pleut pas tant que ça sur la Bretagne.
Et c'est ça l'été indien ?
Non, l'été indien, c'est beaucoup plus tard. Hein. Si on d'accord. doit avoir un été indien, ce sera plutôt fin septembre ou encore début octobre.
Et on ira où tu voudras, quand tu voudras.
Oui,
c'est ça. C'est
bien évidemment.
Là, ça nous
encore, même lorsque l'amour sera mort, bien
mort,
évidemment.
Oui.
Juste après le journal, tous les jours, vous le savez désormais, on décrypte, on débat et nous avons deux sujets. Le premier, c'est le procès des attentats du 13 novembre avec cette question. Pourquoi est-ce si long ? 9 mois, c'est le procès le plus long de l'histoire de France. Et puis, Nice, la mère d'un dealer, a expulsé de son logement. Qu'est-ce que vous en pensez ? A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
9 mois d'audience, 1800 parties civiles, 1 million de pages d'enquête, tout est hors norme.
Procès hors norme par sa durée, par son gigantisme.
Procès historique, démesuré. Le procès du siècle.
9 mois,
hors norme,
c'est du jamais vu.
Historique, les superlatifs autour du procès qui doit s'ouvrir mercredi ne manquent pas. À 2 jours du jour J, RTL Midi a choisi de s'arrêter sur cette audience. Toutes les questions qui se posent, que vous vous posez. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de justice ici à RTL et vous allez bien sûr suivre ce procès. Hors norme, il est à plus d'un titre. Sa durée, d'abord, 9 mois, c'est du jamais vu.
Ça n'est jamais arrivé. Le procès Papon, par exemple, a duré 6 mois. Le procès médiateur, 7 mois. Là, le calendrier table sur un verdict fin mai, si tout va bien. On peut donc le dire, ce sera le procès le plus long de l'histoire.
Alors c'est vrai que ça nous pose un problème même de pédagogie. Il faut qu'un procès ce soit aussi instructif pour les Français. 9 mois, comment on peut l'expliquer ?
Eh bien d'abord, il faut expliquer les faits, il faut les aborder. L'enquête, elle est titanesque. Il faut imaginer une tour de dossiers verts. L'instruction fait 1 million de pages. Il a fallu des camions de déménagement pour les transporter jusqu'au palais. Et puis, il y a le nombre de parties civiles, 1800 pour l'instant. Les rescapés, les familles de victimes, la cour va consacrer plus d'un mois entier à leur témoignage.
1800 parties civiles, vous le disiez. Alors certains ont décidé de ne pas assister à cette audience. C'est le cas par exemple de Sylvie et Éric Pétard, qui ont eux perdu leurs deux filles dans les attentats de Paris, Marion et Anna, 27 et 24 ans. Elles étaient ce soir-là en terrasse au Carillon.
Je ne pense pas qu'on aura les réponses. Les filles sont mortes, ça ne les ramènera pas et toute cette justice ne nous apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la folie des hommes? Je crois qu'il n'y a rien à comprendre.
Il n'y a rien à comprendre, dit Sylvie, qui a donc perdu ses deux filles. Nadine Ribéry-Nartel, elle a perdu son fils Valentin au Bataclan et elle viendra témoigner à la barre.
Ce procès, j'en attends un exposé objectif, historique des faits, un déroulé exact de ce qui s'est passé le 13 novembre,
oui.
Mais aussi avant. Qui s'est passé entre l'arrivée des terroristes sur le sol français et surtout comment ces terroristes franco-marocains, belges, sont arrivés en Europe, à quel moment, qui les a transportés, quel jour, avec quelle complicité. C'est des questions qu'on se pose de manière lancinante depuis près de 6 ans. Et j'ai envie de comprendre tout, de l'avoir définitivement gravé dans ma mémoire.
Nadine Ribéry-Nart avec Yves Calvi ce matin sur RTL. Signe Hubert, est-ce que cette maman va avoir ses réponses?
Oui, en partie. La justice a pu reconstituer une grande partie du puzzle. Ceux qui ont planifié ces attentats depuis la Syrie, les commandos et tous ceux qui ont aidé en louant des voitures, en louant des planques, en se procurant des armes. Après, il reste des zones d'ombre. Est-ce qu'il y avait par exemple d'autres cibles prévues? On sait que 2 accusés se sont rendus à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam le soir du 13 novembre. 24 heures plus tard, Daesh évoque aussi le 18e arrondissement. Alors est-ce qu'il devait y avoir un attentat? Il se trouve que Salah Abdeslam est passé par là avant de jeter sa ceinture explosive dans le sud de Paris.
Abdeslam, justement, mutique depuis son interpellation. Nos confrères de la RTBF publient ce matin un document. Nous sommes le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats. Et alors que les contrôles et les fouilles se multiplient à la frontière, il est interrogé par une équipe de la radio belge et il répond, écoutez, comme si de rien n'était.
Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin.
Avec celui-là, c'est le troisième.
Troisième contrôle.
Franchement,
on a trouvé ça un peu abusif. Hein.
Mais on a compris un petit peu le sens.
Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi.
C'est la voix de Salah Abdeslam, et il est en fuite à ce moment-là vers la Belgique, et évidemment, il y a quelque chose de stupéfiant à l'écouter. C'est l'un des enjeux du procès. Est-ce qu'il sera là?
Alors, il sera évidemment là. Il peut refuser d'être extrait. À ce moment-là, le président de la cour d'assises peut l'amener de force. Il est ensuite au dépôt. Et à cette étape-là, il peut refuser de monter. On fait descendre un huissier qui acte le refus de monter. Et ce petit manège peut recommencer tous les jours.
C'est-à-dire que s'il ne veut pas entrer dans la salle d'audience, il en a le droit.
Absolument.
Et il peut aussi entrer et ne pas parler.
Il peut entrer et ne pas parler, ça va être tout l'enjeu de ce procès. Est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va raconter? Parce qu'on a beau tourner les choses dans tous les sens, Abdeslam, c'est le dernier qui est vivant, qui était sur place le soir du 13 novembre. Après, beaucoup de parties civiles disent aussi qu'il ne faut pas en attendre grand-chose, parce que sinon on va être déçus. Et le seul indice, si j'ose dire, c'est qu'on a eu, c'est sa seule apparition publique, c'était en 2018 à Bruxelles. Nous y étions, c'était pour son procès. Il a prononcé quelques mots, il a ouvert la bouche, mais je peux vous dire que c'était glaçant. Il a convoqué Allah avant de dire au juge « Je n'ai pas peur de vous ». Puis plus rien, silence jusqu'à la fin de ce procès. Donc aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. On ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 9 mois.
Ce qui est important de dire également, c'est que c'est le principal accusé parce que tous les commanditaires sont morts. Ils sont morts en Syrie.
Tous les commanditaires sont morts et tous les autres membres des commandos sont également morts.
Merci beaucoup Cindy Hubert, et on vous suivrez hein, bien sûr pour nous et avec tout le service police-justice. Ce procès, coup d'envoi, on vous le rappelle, ce sera mercredi. Une petite pause, dans un instant l'autre débat du jour, ça concerne Nice.
Bien évidemment, et ce sera cette maman qui est expulsée de son HLM parce que son fils a été condamné pour vente de drogue. A tout de suite.
RTL Midi. Claire. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Expulsé d'un logement HLM parce que son fils dealait des stupéfiants, ça se passe à Nice.
On est condamné à 20 mois pour
trafic. On évoquait cette affaire dès ce matin sur RTL. La mère d'un dealer expulsé de son logement HLM, décision de justice à la demande du bailleur social Côte d'Azur Habitat. Anthony Boré en est le président et premier adjoint au maire de Nice.
Lorsque un locataire prend un logement, il signe un règlement intérieur dans lequel il est clairement indiqué qu'il est responsable de toutes les personnes qui l'hébergent, et il appartient évidemment à chaque locataire de veiller à ce que chacun qui est sous son toit ne soit pas un ennemi de la République.
Bonjour Juliette Chesnel-Leroux.
Bonjour.
Vous êtes conseillère municipale à Nice, présidente des élus écologistes à la métropole Nice-Côte d'Azur. Ça vous a fait bondir cette décision ?
On s'y attendait un peu de ce que ça arrive, parce que lorsque nous avons voté cette décision de mettre en place une convention entre la police, la justice et Côte d'Azur Habitat, nous avons vraiment mis en avant le risque qu'il y avait de faire peser aux familles la peine qui devait être infligée aux délinquants et pas à sa famille. En l'occurrence, il s'agit là d'une mère seule, qui n'est pas une ennemie de la République, qui n'est pas complice de son fils, et qui doit quitter les lieux parce que son fils est un délinquant. C'est normal que le garçon de 19 ans doive quitter le quartier, parce que nous, on n'est pas contre la mise en place de toutes les politiques possibles pour faire régner la paix et la convivialité dans les lieux où vivent les gens. Mais on ne va pas punir la famille pour cette raison.
C'est un peu ce que vous dites, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous dites non plus, Madame Chesnel-Leroux, parce qu'il dilait manifestement dans le HLM. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'il est délinquant que cette mère est sortie du HLM. C'est parce qu'il deal précisément dans le HLM. Et je lis, le tribunal judiciaire qui s'est prononcé a considéré que l'existence et la gravité des troubles ont été suffisamment rapportés pour caractériser le défaut de jouissance paisible des lieux loués.
Il ne dilait pas dans son appartement, il dilait dans le HLM, comme ça arrive.
C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, il dilait dans le HLM.
Le problème qu'il y a en réalité, c'est le problème de mixité sociale dans cette ville de Nice. Il y a des quartiers qui sont des vraies poches de pauvreté, qui sont déficientes en infrastructures nécessaires pour permettre aux familles d'éduquer convenablement leurs enfants. Et cela fait le lit de la délinquance.
La pauvreté a existé parfois dans d'autres générations et elle n'était pas forcément synonyme de délinquance.
Bien sûr. Enfin, on est dans une époque où la tentation de la surconsommation fait que la tentation de l'argent facile entraîne des jeunes dans la délinquance. Mmh. Et je ne dis pas que ces jeunes doivent être dédouanés, ils doivent être punis. Et ce que je dis, c'est simplement que les familles ne doivent pas porter toute la peine et notamment se retrouver à la rue.
Juliette Chesnel-Leroux, justement, cette affaire, elle repose une nouvelle fois, et ce n'est pas la première fois, la question de la responsabilité des parents. Les parents ne sont pas responsables de leurs enfants dès lors qu'ils ont passé 18 ans ?
Les parents sont responsables de leurs enfants dans la mesure où ça leur est possible. Et ça n'est pas toujours facile pour ces familles qui sont des familles monoparentales, qui vivent dans des conditions, dans des quartiers difficiles. Et ce que l'on dit, nous, c'est qu'il faut accompagner tout cela de moyens sociaux qui devraient exister et qui manquent dans ces quartiers. Mmh. Il y a quelques associations qui font du travail, mais tout ne doit pas reposer sur les associations. Il y a des services sociaux qui doivent faire leur travail aussi et aider une maman en difficulté avec un jeune qui tombe dans la délinquance, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, ça doit être la première chose à faire avant de la mettre à la porte.
J'entends ce que vous dites et évidemment, on peut entendre évidemment les raisons sociales, mais on entend aussi parfois dans votre voix et dans d'autres une manière d'exclure toute responsabilité à la fois des parents, des délinquants sur la vie qu'ils ont. Et en sous-texte qu'on peut entendre chez vous, c'est au fond, ce sont des familles démunies sur le plan financier, donc ils tombent dans la délinquance.
Non.
Ou elles tombent dans la délinquance.
Ce que je dis, c'est que ces quartiers, le quartier des Liserons, le quartier de l'Ariane, c'est des quartiers où il y a des vraies poches justement de délinquance. Il y a des poches qui enferment certains gamins dans cette facilité et les familles ont du mal à sortir. Enfin, aujourd'hui, c'est pas facile ni pour les enseignants de collège ni pour les parents qui ont des adolescents de les élever. L'éducation est plus difficile aujourd'hui qu'elle était autrefois et les parents doivent être aidés. Donc, je dis pas qu'il faut une école des parents.
Il y a discussion là-dessus. Hein. Quand les gosses travaillaient à 11 ou 12 ans, il y a 50 ans, je ne sais pas si l'éducation était plus facile. Mais bon, c'est des discussions très longues. Et en tout cas, merci d'avoir été au micro d'RTL pour donner votre avis, Madame Juliette Chesnel-Leroux.
Dans un tout petit instant, le rappel des titres et puis les auditeurs ont la parole.
Exactement, ce sera avec Pascal, vous pourrez réagir. J'ai vu que 85% pour le moment des auditeurs qui ont réagi sont plutôt pour cette idée qu'une femme puisse être expulsée de son logement à cause du trafic de drogue de son fils. La pause, à tout de suite.
RTL.
Il est 13h.